France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT Sandinga Housey.
Halim Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le président brésilien qui accueille la COP 30 fustige les forces extrémistes qui fabriquent des mensonges sur l'environnement. Il veut protéger l'Amazonie, mais les associations de défense de l'environnement lui reprochent le pétrole. La COP de Lula, on y vient tout de suite. Comment le Maroc devient l'homme fort du Maghreb, notamment dans la bataille sur le Sahara occidental? C'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est à Hollywood, où les menaces de droits de douane de Trump inquiètent les réalisateurs habitués à tourner partout dans le monde.
Au prochain film, on va aller tourner au Paraguay, à Singapour et il y aura 4 jours aussi à Chicago. Tourner aux États-Unis coûte tellement cher.
Un reportage de Corinne Pellissier à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Auda a trouvé Canberra qui perd 3 milliards de taxes par an à cause de la contrebande de cigarettes. Et puis dans la tech la première, Stéphane Jourdain se demande ce qu'on fait de l'IA quand on est musicien. Est-ce qu'on plonge ou est-ce qu'on sort les gousses d'ail? Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras.
Voilà, c'est lui, donc Lula, à l'ouverture de sa COP, j'allais dire la COP 30. Et les mots exacts, les forces extrémistes inventent des mensonges et emprisonnent les générations futures dans un modèle obsolète qui perpétue les disparités sociales et dégrade l'environnement. Mes amis, la fenêtre pour agir se referme rapidement. Bonsoir Antoine Acker.
Bonsoir.
Notre professeur d'histoire de l'environnement et d'Amérique latine à l'université de Genève. On va parler de ce que Lula a dans les poches, justement, à l'ouverture de cette COP. Enfin, ce qu'il montre et ce qui montre moins. Je voudrais d'abord qu'on aille quand même faire un petit aller-retour à Belém. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Et juste en quelques mots, Sandy, s'il fallait prendre une photo de ce démarrage, donc c'est pas le démarrage officiel, hein, c'est les chefs d'État aujourd'hui ou demain, mais si on prenait une photo, vous diriez quoi? Vous montreriez quoi?
Eh bien, aujourd'hui, c'est un choix assumé de la présidence brésilienne. Avant les prises de parole des chefs d'État, elle a donné la parole à la science. La science et les scientifiques, de plus en plus malmenés, leurs travaux relativisés, contestés, voire censurés, comme c'est le cas en ce moment aux États-Unis. C'est d'ailleurs la secrétaire générale de l'Organisation mondiale météorologique qui a parlé en premier à la tribune avec des mots forts. On ne peut pas défier les lois de la physique, dit Céleste Saolo. La science ne ment pas. Et elle nous a livré les dernières données sur le climat, très alarmistes, hein. L'année 2025 sera encore parmi les plus chaudes jamais observées, la deuxième ou la troisième plus chaude. Et cela fait 800 000 ans que la planète n'a pas connu une telle concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors un exposé scientifique glaçant en introduction de ce sommet pour rappeler une évidence qu'il n'est visiblement plus pour tous. La science doit guider, éclairer les choix et des politiques des dirigeants présents ici à Belém.
Donc la science s'en dit. Puis il y a autre chose qui était assez marquant, c'est l'importance donnée aux sociétés civiles. Ce qui est une manière au fond de dire, c'est vous qui avez la main face justement à certains dirigeants qui ont décidé de lâcher l'environnement, et suivez mon regard.
Oui, le Brésil insiste, hein, c'est une COP 30 inclusive où les peuples autochtones et la société civile auront une large place. Il y aura d'ailleurs un sommet des peuples, un sorte de contre-sommet mais tout à fait autorisé sur plusieurs jours dans une université près de la COP à partir de mardi. Et puis c'est le grand retour des marches pour le climat à la fin de la première semaine de COP dans la ville. Hein, marches interdites ou réduites à peau de chagrin dans les trois dernières éditions de la COP qui se sont déroulées en Égypte, à Dubaï et en Azerbaïdjan.
Merci beaucoup Sandy Dauphin. Vous reviendrez dans un tout petit instant pour nous parler d'autre chose à cette COP avant. Donc Antoine Acker, à votre avis, qu'est-ce qu'il a envie d'en faire Lula? Qu'est-ce qu'il est important qu'il en fasse? Comment il doit en sortir de cette COP-là?
Alors lui, je pense, on l'a vu pendant le discours, hein, il essaye de se poser comme un leader militant international du climat, et puis un peu en opposition à ce qu'il a appelé les forces extrémistes. Donc c'est cette onde d'extrême droite qu'on a vu arriver dans le monde occidental, notamment une partie de l'Amérique latine, et puis au Brésil avant lui avec Bolsonaro. Et puis, il y a beaucoup d'ambition de faire de cette COP 30, des ambitions internationales, hein, d'en faire la COP de la sortie, ou en tout cas d'un plan de sortie à long terme des énergies fossiles. Lula, il essaie aussi de se placer sur la question de la déforestation et de la protection des forêts tropicales avant tout.
Et justement, il y a ce paradoxe-là, on va y aller tout de suite. D'ailleurs, les poches pleines, c'est ça en fait, c'est la déforestation, non, c'est le chiffre, moins 11,8 sur 1. un an, il a effectivement inversé la tendance. Ça, on ne peut pas lui enlever.
Il a complètement inversé la tendance et puis surtout, il a renoué avec la politique de lutte contre la déforestation illégale qui était la sienne avant que le PT ne soit chassé du pouvoir en 2016. C'est très impressionnant, vraiment, quand on regarde l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, la courbe de la déforestation a augmenté à vitesse grand V chaque année. Et puis, l'année suivante de son départ, on a à nouveau une baisse.
Mais du coup, je me demandais si c'était une vraie politique volontariste au plein sens du terme ou si, de toute façon, effectivement, Bolsonaro avait tellement exagéré et était tellement loin qu'on est revenu à un étiage qui, de toute façon, ne ressemblait à rien précédemment.
Non, on ne peut pas dire ça parce que vraiment, la baisse de la déforestation, elle date de l'arrivée au pouvoir du PT vers 2004.
Mais du coup, l'objectif déforestation zéro d'ici 2030, ça semble atteignable ou pas ?
C'est l'objectif de Lula. Ouais. Alors, il faut savoir que l'essentiel de la déforestation en Amazonie, aujourd'hui, elle est illégale, à peu près 80%. Et donc, c'est vrai que les pouvoirs politiques peuvent jouer un rôle très, très important, notamment, tout simplement, en condamnant, en mettant des amendes, en mettant en prison les personnes qui envahissent les unités de conservation, les terres indigènes, et puis qui pratiquent la déforestation de manière illicite.
Illégale, et notamment parce qu'il y a ce fameux moratoire sur le soja, et on les voit bien pousser ceux de l'agro-business. Est-ce que, parce que le soja, les élevages bovins, c'est les deux raisons, les vecteurs principaux de déforestation. Il a les moyens de cette bataille, il sait leur parler. On n'oublie pas non plus, on y viendra peut-être après, qu'il est presque en campagne électorale. Hein. Son mandat est en train d'arriver à sa fin.
Il est en campagne électorale.
Donc il a les moyens de jouer contre ces gens-là ou pas ?
Il gouverne avec eux d'une certaine manière, puisque le Parlement est en partie, disons, il y a énormément d'élus qui sont soutenus, financés par l'agronégoce, qui le représentent, qui sont même des propriétaires terriens. C'est même une majorité du Parlement et du Sénat. Et donc, Lula doit faire avec cette majorité-là. Donc, il leur donne des gages. Il a une politique qui favorise les exportations de matières premières. Et puis, d'autre côté, il donne des gages à l'aile écologiste de sa majorité, qui est assez forte aussi.
Après, il faut rappeler qu'il a repris la ministre de l'écologie, qui était la sienne au tout début, en fait, lors du premier Lula, si j'ose dire. Après, ce qui est assez frappant, Antoine Acker, évidemment, tout le monde l'a remarqué, c'est qu'il y a donc cette déforestation qui est claire et assez radicale d'un côté. Et puis aussi, il y a le pétrole, le nouveau champ pétrolier qui doit s'ouvrir à l'embouchure. Effectivement, de l'Amazonie. Et là, pour le coup, on a même un Lula qui a des mots, il parle de nouvelles frontières de l'or noir. Enfin, c'est vraiment un discours. Quand on parlait de nouvelles frontières, on pense à Kennedy et l'espace, c'est dire ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire... Et dans le même temps, donc, un plan de sortie des énergies fossiles. Il y a quelque chose de très contradictoire là-dedans, quand même.
C'est tout le paradoxe. Ouais. En fait, Lula veut être le président de la sortie des énergies fossiles.
Mais il dit lui-même qu'on ne peut pas s'en passer.
En même temps, le Brésil est en train de devenir le premier producteur de pétrole offshore dans le monde. Et le pétrole offshore, c'est le futur des énergies fossiles dans un monde sous risque de réchauffement climatique extrêmement grave. Et Lula joue là aussi sur les deux tableaux, puisqu'il a besoin de cette manne pétrolière pour pouvoir notamment la redistribuer. Et puis,
Alors c'est ce qu'il dit, la redistribuer, mais on se souvient effectivement du Lula 1, si je puis dire, Antoine Ecker. C'est comme ça aussi que c'est né, en fait, la redistribution, le fameux grand gisement qui s'appelait... C'était le gisement Guyana, c'est ça ? Est-ce que je me trompe ?
Le Pressa, vous voulez dire ?
C'est ça, exactement.
Offshore, voilà.
Exactement. Donc il y a ce moment-là avec Lula, on a l'impression qu'il essaye de refaire exactement la même chose avec les mêmes méthodes. On est juste beaucoup de temps après. Et c'est évidemment vécu très différemment aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelle le consensus des matières premières, en fait, en Amérique latine. C'est des revenus d'exportation qui sont indispensables pour pouvoir maintenir l'excédent budgétaire qui permet au pays de se maintenir à flot, en fait.
Mais est-ce que ça veut dire que la déforestation, du coup, c'est ce qui permet de mettre le pétrole sous le tapis, en fait ? On soulève l'Amazonie, on met les puits de pétrole dessous, non ? Ou pas ? Montrer la bouteille à moitié pleine en oubliant le reste ?
Oui, alors c'est du pétrole offshore, donc l'argument des autorités, c'est qu'il ne va pas provoquer de déforestation, mais il y a un risque d'accident qui est très important. Voilà, en cas de marée noire, par exemple, ça pourrait atteindre l'environnement amazonien de manière extrêmement grave. Et donc c'est pour ça que Lula, en contrepartie, mène une politique volontariste sur la déforestation pour montrer qu'il a un bilan écologique.
44 milliards de revenus par an, si je ne m'abuse, le pétrole, c'est énorme, premier produit d'exportation. S'il veut se placer comme il veut l'être, comme celui qui emmène les BRICS derrière lui, encore une fois, a-t-il le choix, de toute façon ? Est-ce que c'est ça qui en fait la première puissance des BRICS, le pétrole.
C'est le pétrole, c'est la relation avec la Chine, en fait, et puis le fait que le Brésil, c'est le premier marché de soja vers la Chine, le premier marché de bétail, et puis c'est en train de devenir aussi le premier marché de pétrole grâce à l'offshore. Et puis la Chine est aussi présente, très présente, dans la transformation de l'Amazonie en grande réserve de matières premières. Elle finance un certain nombre d'infrastructures et puis de grands projets futuristes, comme notamment le projet Ferrogrão, qui consiste à créer une ligne de chemin de fer qui traverse l'Amazonie pour pouvoir mieux exporter le soja. Et donc Lula est pris dans ces alliances-là aussi, oui.
Je voudrais qu'on retourne justement là-dessus à Belém avec vous, Sandy Dauphin, parce que dans les poches de Lula, au moment du démarrage de cette COP, il y a aussi ce fameux fonds Tropical Forest Forever qu'il a lancé aujourd'hui, qu'il a abondé d'ailleurs à hauteur d'un milliard. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'il a envie d'en faire? Ça fonctionne comment cette histoire?
Déjà, il y a un symbole. Le président Lula ne cesse de répéter que c'est la première COP au cœur de l'Amazonie. Et donc, il en profite pour lancer ce fonds sur lequel il compte beaucoup. C'est un outil de protection et un mécanisme financier. Alors, je vous explique juste le principe. Il s'agit de verser une rémunération pour chaque hectare de forêt tropicale conservée. Ce serait d'environ 4 euros l'hectare. Et Lula doit maintenant chercher des pays et aussi des investisseurs privés pour espérer mobiliser 125 milliards de dollars au total.
Pourquoi la France n'a promis aucun financement à ce stade? Est-ce qu'on n'a pas confiance?
Alors, on sent quand même une certaine prudence au ministère de la Transition écologique. On explique qu'on attend des affinages techniques, des garanties aussi que ce fonds servira à la fois pour les deux autres grandes forêts tropicales. Il y a l'Amazonie, bien sûr, mais le bassin du Congo et aussi l'Asie du Sud-Est. Et puis, il y a aussi beaucoup d'experts qui veulent des garanties sur le fait que l'argent aille vraiment à des projets verts.
Antoine Acker, est-ce que ça ressemble à une forme de greenwashing, en fait, quelque chose qu'on met en avant, ce fonds tropical Forest Forever? Est-ce que ça a du sens?
Ça a un peu plus de fond. Okay. Je pense que ça vient d'un discours assez ancien au Brésil, qui est un discours de justice climatique et de réparation historique, en fait. C'est l'idée que, bon, ce sont les pays du Nord qui ont émis le plus d'énergie fossile depuis le 19e siècle, et puis ce sont les pays du Sud qui ont la souveraineté sur les grandes forêts tropicales, mais à cause du système économique mondial dans le cadre duquel ils sont défavorisés, ils ont besoin d'aide, besoin d'argent. C'est sur ce cheval de bataille-là, en fait, la justice qu'il essaye de se positionner.
Jusqu'où diriez-vous que le résultat de cette COP et son destin politique, au fond, à Lula, sont liés? Est-ce que la réussite de cette COP, c'est un bon paquet, si je puis dire, avant réélection l'année prochaine ou pas? Est-ce que ça joue vraiment?
Alors, pour être honnête, je pense que la réussite des forages pétroliers de Petrobras en Amazonie est sans doute joue plus. Et puis aussi ce qui se passe au niveau des tarifs et
lui,
les négociations avec les États-Unis, ça pèse beaucoup plus en termes politiques.
Mais du coup, joue plus pour lui, y compris à l'intérieur. C'est-à-dire, on a du pétrole, ça fait des emplois, c'est important, etc. C'est ça que
pour
vous voulez dire?
Pour maintenir sa majorité, on va dire. D'un côté, ménager les écologistes, les groupes indigènes, les leaders indigènes qui le soutiennent, et puis tout en avant cette politique du pétrole qui dit un peu le contraire de ce qu'on a envie de faire pendant la COP. On va dire.
Est-ce que le Lula... Le Lula diplomate, a emporté finalement le morceau, a fait de son pays, le Brésil, ce qu'il entendait faire. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, les relations avec les États-Unis qui sont parfois complexes. On a vu ce qui s'était passé aux Nations Unies. Est-ce que le Lula diplomate, à votre avis, a sorti son épingle du jeu? Et c'est aussi ce qu'il est en train d'essayer de démontrer là?
Sur la diplomatie, il n'y a aucun doute. C'est le jour et la nuit par rapport à Bolsonaro qui était devenu un paria international. Vraiment, Lula, il a fait du Brésil un pays incontournable. Et puis, dans la tradition des grands pays émergents du Sud, il s'est saisi de la question environnementale pour peser sur la scène internationale. Et il l'a fait de manière très habile.
Et puisqu'on y reviendra lundi, si on regarde qui dirige les BRICS, en fait, en gros, enfin, qui domine les BRICS, est-ce que vous diriez que c'est la Chine? Est-ce que le Brésil, est-ce qu'on est à égalité entre les deux au moment où on se parle?
Le Brésil innove, on va dire, parmi les BRICS. Il a présidé les BRICS cette année, et puis il a fait du climat sa thématique centrale. Lula a encouragé Dilma à devenir la présidente des BRICS, notamment, donc c'est quand même important pour le Brésil. Et puis surtout, c'est le seul, enfin avec l'Inde, c'est un grand pays démocratique dans les BRICS, donc qui peut jouer un rôle de pont aussi entre les BRICS et le monde occidental.
On n'a pas fini d'en parler, Antoine Acker, je vous remercie beaucoup. Merci aussi à Sandy Dauphin qui suivra évidemment cette COP pour nous et chez nous aussi dans Un jour dans le monde, tout au long de sa durée. Merci beaucoup. La suite, ce soir et comme chaque soir, c'est Le Monde à l'endroit et c'est vous, Louise Baudet.
Bonsoir, je vous parle ce soir d'une marche verte qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, vous allez voir.
Allez, juste après ça.
I wrote your name with a can of spray. I wrecked your car trying to get
S'appelle Bar Italia, ce sont des Britanniques, Fundraiser, c'est le nom du morceau, et c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, et Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et Louise, vous nous parlez d'un conflit parmi les plus anciens du monde, qui oppose deux frères ennemis, le Maroc et l'Algérie, conflit en train de tourner au bénéfice du Maroc avec la bénédiction des États-Unis.
Oui, et pour comprendre, il faut rembobiner. 6 novembre 1975, il y a 50 ans, jour pour jour, 350 000 Marocains, drapeau national et Coran à la main, entament une marche pacifique vers le sud du pays. Coup de force et coup de poker du roi d'alors, Hassan II, que cette marche verte vers un territoire que le Maroc revendique depuis son indépendance, le Sahara occidental, grand comme la moitié de la France. Un désert, oui, mais un désert riche en phosphates essentiels aux engrais et en poissons sur sa façade maritime. Le territoire est alors espagnol. C'est l'une des dernières colonies du continent africain. Un mouvement armé y défend le droit à l'indépendance des habitants sahraouis. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, grand rival régional du Maroc. Une guerre s'ensuit et au fil du temps, un fait accompli. L'essentiel du Sahara occidental passe sous domination marocaine, occupation illégale aux yeux des Nations Unies.
Et c'est à l'ONU, justement, que le Maroc vient de remporter une victoire diplomatique.
Oui, c'était la semaine dernière, revirement spectaculaire du Conseil de sécurité de l'ONU qui apporte son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Ce plan prévoit un parlement et un gouvernement sahraoui, mais l'appareil d'État marocain reste maître du territoire. Solution jugée la plus réalisable pour résoudre un conflit enlisé depuis des décennies au détriment du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et d'une solution négociée avec le Front Polisario et l'Algérie.
Et ça, c'est le résultat d'une pression diplomatique constante.
Oui, le résultat des années d'efforts d'Hassan II puis de Mohamed VI qui fait de ce dossier du Sahara occidental le maître étalon de la sincérité des amitiés nouées avec le Maroc. Un soutien va tout faire basculer, celui des États-Unis. En 2020, Donald Trump reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Le président américain obtient en contrepartie la normalisation des relations entre le Maroc et son grand allié, Israël, mais aussi la promesse d'un partenariat économique avec ce pays qui lui paraît le plus fiable de la région. Ensuite, eh bien, c'est l'effet domino. L'Espagne, ex-puissance coloniale, sort de sa neutralité et soutient le Maroc pour éviter qu'il ne lui envoie un flot de migrants via l'enclave de Ceuta. Berlin, Londres, plusieurs nations africaines suivent, mais aussi Paris qui bascule à l'été 2024 après 3 années de relations glaciales. La France choisit son camp, celui du Maroc contre l'Algérie, avec laquelle le fossé n'a cessé depuis de se creuser.
Et donc l'Algérie, c'est le grand perdant dans l'affaire ?
Oui, Alger a multiplié les contacts à l'ONU avec ses soutiens historiques la semaine dernière, soutiens notamment chinois et russes, dans l'espoir de créer un front du refus. Mais ils se sont abstenus, laissant la voie libre au texte américain. Abstention qui en dit long sur la perte d'influence de l'Algérie au bénéfice de son rival. Elle-même n'a pas participé au vote la semaine dernière, certaine de le perdre, et peut-être aussi tentée de plier devant la détermination de Donald Trump à imposer dans cette partie-là aussi du globe sa Pax Americana. Le président et son administration qui ne doutent de rien, ils se donnent 60 jours pour réconcilier le Maroc et l'Algérie. Deux petits mois pour mettre fin à une rivalité qui empoisonne la géopolitique du Maghreb depuis un demi-siècle.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Et le reportage d'un jour dans le monde est à Hollywood ce soir avec cette question: faudra-t-il bientôt payer 100% de taxes pour que le cinéma français se diffuse aux États-Unis? C'est bien la menace de Trump et c'est bien le sujet qui a alimenté ces derniers jours à Los Angeles les rencontres du American French Film Festival, rendez-vous incontournable des professionnels des cinémas français et américains. Ils se réunissent tous les ans, donc en début novembre. Et cette fois, il y avait de quoi dire, hein. Il y a cette fameuse taxe et s'ajoute aussi une pression sur le contenu des scénarios. Le reste, c'est Corinne Pellissier qui raconte.
10 jours seulement se sont écoulés depuis la grande manifestation No Kings, où elle s'est rendue à Los Angeles pour protester contre la dérive autoritaire de la présidence de Donald Trump. Sur le tapis rouge de l'American French Film Festival, la directrice Anouchka Vanril est soulagée de voir enfin arriver les premiers participants. Jamais les préparatifs du festival ne s'étaient déroulés dans un climat aussi tendu.
Il y a énormément de libertés qui sont en danger actuellement. On est sous une pression de destruction de la démocratie tellement intense depuis, ça fait maintenant même pas un an, qu'on oublie qu'on peut être puissant en tant que citoyen. Donc on a pris 2 heures en pleine préparation pour faire les manifestations.
Sous le crépitement des flashs ce soir-là, l'Américain Richard Linklater et les comédiens français du film Nouvelle Vague pour illustrer à la perfection ces valeurs d'échange et de partage entre la France et les États-Unis portées depuis 30 ans bientôt par le festival. Mais en coulisses, des questionnements à n'en plus finir sur l'avenir à l'export des productions françaises dans le collimateur du locataire de la Maison Blanche. Rien de concret encore pour Daniela Elsner, la directrice d'Unifrance, chargée de faire rayonner le cinéma français à l'étranger, mais elle surveille le sujet de près.
On regarde tous ce que le président dira sur les tarifs, etc. Maintenant, je crois qu'on sera encore là de nombreuses années.
Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Dans les locaux de la très puissante guilde des réalisateurs américains, la DGA, située sur Sunset Boulevard, la menace proférée à 2 reprises d'une taxation à 100% des films fabriqués à l'étranger inquiète aussi les Américains, souvent enclins à délocaliser leur tournage pour profiter de crédits d'impôt plus avantageux. Tourner aux États-Unis coûte cher, forcer la main des cinéastes en nommant par exemple des ambassadeurs comme Sylvester Stallone ou John Voight, qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'ici, ne rendra pas sa grandeur à Hollywood, commente le réalisateur Michael Mann, sur le point de démarrer le tournage de son prochain film, It 2.
Pour mon prochain film, on va aller tourner au Paraguay, à Singapour, et il y aura 4 jours aussi à Chicago. On tourne partout dans le monde en fait. Il y a 3-4 ans, pour mon film Ferrari, on a eu la chance de bénéficier de crédits d'impôt très avantageux. En Angleterre, ça marche du feu de Dieu. Sans ces aides, je n'aurais jamais pu réaliser mon film. Tourner aux États-Unis coûte tellement cher.
Même si beaucoup dans l'industrie ont attendu de voir avant de juger, le travail promis pendant la campagne du président n'est pas revenu et de nombreux acteurs ont vu leur horizon, leur liberté se rétrécir un peu plus. Et pas seulement dans l'État de Californie, perçu par Donald Trump comme un indécrottable nid d'opposants. Venu exprès de New York pour le festival, le comédien star de la série Mindhunter, Holt McCallany, l'a constaté lui aussi.
Depuis que je suis né, j'ai jamais vu pareil. C'est un moment très difficile. Mais j'ai un passeport américain et irlandais.
C'est d'ailleurs l'une des conséquences inattendues de l'hostilité manifestée par le président américain à l'encontre d'Hollywood. Une avalanche de demandes pour des passeports français arrivées depuis un an sur le bureau du consul Adrien Frier. À Los Angeles.
On a eu de grosses tensions autour du déploiement de la garde nationale et des questions migratoires. Beaucoup de questions qui se posent politiquement sur les conséquences de ce que fait l'administration Trump à Washington. La France a une image de pays qui défend des valeurs, qui est une sorte de refuge quand les gens se sentent, à tort ou à raison d'ailleurs, menacés.
Beaucoup, dans ce climat de tension, préfèrent ne pas dévoiler leur projet de départ, prétextant simplement un tournage. Jim Jarmusch a par exemple confié au magazine Vogue avoir lancé une demande dans le cadre de son prochain road movie, qui devrait en partie se dérouler à Paris.
Corinne Pellissier pour le reportage. Corinne, merci beaucoup. La suite, c'est Guillaume Audat qui va la chercher sous les radars.
Voilà, sous les radars et dans l'espace où l'on reparle à nouveau, comme hier, de débris qui traînent et qui suscitent une guerre des étoiles entre Washington et Bruxelles.
Et la tech la première, comme tous les jeudis. Stéphane Jourdain.
Quand on est musicien, l'IA, peut-on s'en servir ou pas?
Allez, ne bougez pas, le tour de la planète continue, les amis. Il passe par l'Italie avec Raphaël Galazzi, pianiste de jazz qui mélange de la musique de saloon avec de la pop. Calda Estate, c'est le choix musical de Giubacca.
Calda estate, non si riesce a far più niente che morire sotto il sole, tra le gabole e la gente, e non so più dove andare, ma non voglio questa gente. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? mi rinfranco, faccio un bagno dentro il sole, gioco a scopa nelle scuole vuote come un capannone, mi distendo sopra un pianoforte sciolto e mi chiedo dove sei, dove sei, dove sei, dove sei. Questa estate, questa gente, tutta immagine e poi niente, e nessuno vuole dirmi dove sei. Faccio stragi, ma se passo da perdente, prima o poi la stessa gente mi telefona e mi dice dove sei. Sono stanco delle mie stesse parole, qui si fanno solo prove, non si sa chi diventare, e per fortuna che ti ho visto, per fortuna almeno tu sei come sei, come sei, come sei, come sei. Questa estate, questa gente non mi portano più a niente, ma che importa se mi dici dove sei. Pensa un po' che mi travesto la pezzente, sparo lacrime abbronzanti e le vendo per scoprire dove sei.
Raphaël Galazzi, Calda Estaté sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Comment passer sous les radars et remonter avec sur le dos l'actualité qui vous a échappé ? Eh bien, c'est le travail de Guillaume Audat.
Why we decided to have a space law? The first element is link.
Voilà, et alors vous êtes resté dans l'espace, Guillaume, comme vous voulez, hein, dans l'espace depuis hier. Vous nous dites qu'entre l'Europe et les États-Unis, la guerre des étoiles aura bien lieu.
Voilà, et dans 10 ou 20 000 ans, on se souviendra peut-être que cette guerre des étoiles, Europe-USA, elle a commencé à Bruxelles, un 6 novembre 2025, ici même, sous les radars, chez vous, Fabienne Saint-Esse, avec cet homme qu'on vient d'entendre, un fonctionnaire de l'Union européenne, ni plus ni moins que le responsable de la sécurité et de la régulation du trafic dans l'espace. Alors, pourquoi y suis-je resté perché dans l'espace, me demanderez-vous ? Eh bien,
je vous le demande.
Voilà, vous me le demandez. Vous vous souvenez sans doute que hier, nos trois malheureux astronautes chinois, ils sont restés, eux, dans leur capsule. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été, ou ils pouvaient être percutés par un débris spatial. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus des débris spatiaux. La faute à qui ? La faute à Elon Musk. Deux tiers des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes sont signés Starlink. C'est pour cela que la Commission s'en mêle. Elle veut réglementer en orbite afin de contrer, dit-elle, les risques exponentiels de collision. Washington fulmine. Il voit une offensive déguisée contre son industrie. Starlink, SpaceX, la NASA, etc. Prochain épisode, l'Empire Trump contre-attaque.
Le porte-parole du ministère chinois du commerce le dit et le répète, pour Pékin, les terres rares sont l'un des leviers de leur toute-puissance.
Et oui, parce qu'ils sont passés maîtres, les Chinois, non seulement dans l'extraction de ces minerais critiques que tout le monde s'arrache pour les IA, les téléphones, la défense et que sais-je, l'extraction donc, mais également le raffinage afin de les transformer et de les vendre en matériaux prêts à l'emploi, ces terres rares. Et là, ils ont beaucoup, mais alors beaucoup d'avance sur toute la planète. C'est un virage qu'a pris Xi Jinping il y a 10 ans pour défaire son pays de la dépendance aux hydrocarbures. Et trêve commerciale ou pas, hein, c'était quand même l'enjeu de la rencontre avec Trump il y a tout juste une semaine, c'était jeudi dernier. On apprend que Pékin fourbit ses armes en coulisses et lance sa plus grosse vague de recrutement de fonctionnaires depuis 3 ans. Une soixantaine d'experts, rien que pour les minerais critiques. Non pas seulement pour administrer, mais pour verrouiller, surveiller, tracer toutes ces terres rares qu'elle vend raffiner. En clair, maintenir une pression mondiale et également sur les États-Unis, en particulier la bureaucratie chinoise, et donc en ordre de bataille pour protéger sa ressource stratégique numéro 1.
The tie's pretty shit actually, but again, it's just worth it.
Alors le goût de cette clope, assez dégueu je dirais, mais vu les prix ici, j'ai pas le choix. Et ici, c'est l'Australie où le paquet de cigarettes vaut en moyenne 30 euros.
Voilà, et donc ce jeune fumeur, bah, il fait comme tout le monde là-bas, ou presque, il achète ses clopes, ses cigarettes dégueu, je le cite, pour environ 10 euros sur le marché noir. Le résultat d'une législation drastique en Australie où le prix du paquet a littéralement flambé pour en venir à bout du tabac parce que c'est tabou. Vous l'avez ? Non, vous l'avez pas, les inconnus ? Bon. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe.
Le Stéphane non plus.
C'est à bout, on en viendra tous à bout. Bon, bref, c'est d'une autre génération, la mienne. Eh bien, c'est donc l'inverse qui se passe en Australie. Le tabac clandestin vient à bout des finances publiques. Il est ultra taxé. Conséquence, la contrebande est en plein essor. Le fisc local est privé de plus de 3 milliards de dollars par an. C'est beaucoup et c'est un effet pervers. Les recettes fiscales ont été divisées par deux en 10 ans. Donc l'Australie pose une question au reste du monde. Jusqu'où lutter contre le tabac, protéger la santé en taxant, sans faire prospérer l'économie souterraine? Vous avez 4 heures.
Voilà, j'ai le temps de me refaire la série des inconnus du coup.
Pour ce petit piège.
Merci beaucoup Guillaume. Allez, à lundi. Tiens, la tech la première, c'est Stéphane Journain.
France Inter. Le 18/20.
Stéphane, on parle d'IA et de musique parce que ça bouge beaucoup côté business dans les plus grosses, la plus grosse des majeures, Universal, qui vient de signer un accord inédit avec l'un des principaux générateurs de musique IA. Et côté création, un compositeur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Mirwais. Donc il sort demain un morceau en partie produit par l'IA. Alors quand on est musicien, est-ce qu'on se saisit de l'IA ou pas?
Alors, le secteur était comme sidéré par le déferlement de l'IA, mais jeudi dernier, un coup de tonnerre a sorti tout le monde de sa torpeur. Le géant Universal a topé avec la start-up Udio, une IA avec laquelle on peut s'amuser à créer des musiques. Vous connaissez ça, Fabienne. Par exemple, ce nouveau générique pour Un jour dans le monde, version hard rock, c'est cadeau.
J'adore. C'est peut-être un peu raide, mais ok.
Ne me dites pas
non,
merci.
Non, je vous en prie, du tout.
Bientôt, Udio va rémunérer les artistes d'Universal, Taylor Swift, Lady Gaga, The Weeknd, quand on s'amuse à créer des musiques IA qui s'inspirent de leur travail. Réaction du chanteur Raphaël.
En vrai, ils pillent déjà le catalogue. Donc là, c'est simplement une manière, je pense, de faire en sorte qu'on soit pillé, mais qu'il y ait au moins une rétribution. Je ne sais pas si elle va être symbolique ou réelle, mais quitte à ce qu'on vous fasse les poches, c'est mieux qu'on vous redonne un peu de mitraille, quoi.
Mitraille, débris de métaux, menu monnaie de métal, avoir les poches pleines de mitraille, voilà un terme que l'IA n'aurait sans doute pas utilisé.
Alors voilà pour le côté business, côté création, vous allez nous faire écouter le morceau de Mirwais.
Eh oui, Mirwais, membre fondateur de Taxi Girl, producteur de Madonna, musicien respecté, il s'est servi d'une IA, Suno, pour produire un morceau, The Democracy.
Mais alors, du coup, là, dans ce qu'on écoute, Stéphane, l'IA a servi à quoi?
Alors, les paroles sont 100% de Mirwais, mais la musique, c'est l'IA. Mirwais est juste passé derrière pour ajuster la production. Est-ce que tout ça fait de la bonne musique? Réponse de Mirwais.
Moi, je suis musicien depuis l'âge de 12 ans et j'ai eu quelques succès. Si je plonge là-dedans, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, c'est parce que je pense que c'est un outil du même type que le sampler, mais en beaucoup plus puissant. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que c'est l'émotion qui compte au final ou pas?
Un outil plus puissant que le sampler, mais n'allez surtout pas croire que c'est facile de créer un morceau à la manière de tel ou tel artiste.
Attends, alors moi j'ai dit un truc en 2 ans, ça fait 2 ans que j'essaie de faire une chanson qui se rapproche, même à 50%, du Dylan des années 63, c'est Ed Sheeran à chaque fois.
Du Ed Sheeran.
Content, Ed Sheeran.
Du Ed Sheeran au kilomètre. Mais à force d'utiliser l'IA, Mirwais pense quand même avoir trouvé le secret d'un bon morceau IA.
Si tu lui donnes les bonnes paroles, il te fait les meilleures chansons. Alors, je pense avoir une explication pourquoi il y a des meilleures chansons si tu fais des meilleures paroles. C'est tout con, c'est du deep learning. Il va commencer à lisser avec tout ce qui est bien. Et c'est pour ça que moi, je suis pas inquiet pour moi. Si tu lui donnes des paroles génériques, I love you baby, bah il va te mettre avec toutes les merdes. Bah ouais, mais tout le monde fait pas de bonnes paroles. C'est ça aussi le truc. Mais c'est normal.
Et le regard des autres musiciens dans tout ça, un peu dégoûté par l'IA, et ben Mirwais s'en fout pas mal.
Ouais, il ment, hein. Il l'utilise derrière pour le songwriting.
Allez, alors peut-être pas tous, en tout cas Stéphane, vous avez parlé avec un compositeur qui lui n'a aucune envie de toucher à l'IA.
Eh oui, Victor Lemann, musicien des JO de Paris 2024, réaction à Mirwais, est-ce que l'IA c'est comme un super sampleur?
Mirwais qui la pense comme un sampleur, il a bien raison, bien sûr. Tant que ça reste un outil à la disposition des musiciens, c'est très intéressant, c'est même passionnant. Mais si ça devient une espèce de puits dont, je ne sais pas, une agence de publicité ou quelque chose veut se servir prenant l'emploi d'un musicien ou d'un graphiste ou d'un scénariste, là, ça devient évidemment très dangereux.
Mais finalement, est-ce l'un ou l'autre? Est-ce qu'on ne va pas avoir à la fois les agences de pub qui se passent des artistes et en même temps de nouveaux Daft Punk, Mirwais ou Victor Lemann qui se servent de l'IA?
Vous êtes sympa de me mettre dans la liste, mais disons que l'IA, en fait, pour un musicien, ça peut être très amusant, etc. Mais c'est vrai que ça enlève, moi, je trouve, tout le sel de la création. Enfin, c'est-à-dire que moi, ce qui m'amuse quand je suis en studio, c'est de choisir tel instrument plutôt que tel autre, tel accord plutôt que tel autre. C'est tout mon bagage, toutes mes émotions, toute mon âme que je vais mettre dans ce truc-là. Et c'est le moment le plus intéressant dans la création. C'est le moment où on crée, où on fait un disque, etc. Donc, c'est vrai qu'enlever ça, ça m'enlève le fun un peu, quoi, si je puis dire.
Une IA voleuse de fun et incapable de créer des ruptures artistiques.
Ce que je trouve pauvre finalement dans l'IA, c'est que l'IA, en fait, elle ne fait que suivre ce que l'homme lui dit de faire. Elle est alimentée par un créateur, mais donc elle n'est qu'alimentée et donc elle ne crée jamais de rupture. Et pour moi, c'est vrai que la création, l'art, c'est savoir créer des ruptures au moment où on ne les attend pas. Et c'est là que ça devient du génie. Et l'IA n'est incapable de faire ça, en fait. On se demande qu'aurait fait Miles Davis avec l'IA, ou je sais pas, ou Jimi Hendrix ou Bach.
Qu'aurait fait Jimi Hendrix avec l'IA, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai demandé à une IA de créer une chanson à la manière de Georges Brassens pour le lancement du 18-20,
okay.
Voilà ce qu'elle m'a fait.
En top ambré ou de moulipo, dans sa verron voulait en moi.
Elle a inventé une langue.
Ah là, mais c'est génial. Bon, allez, tous derrière. Ouais, bah, bravo. Ouais, bah, comme quoi, c'est bon, on a encore un peu de temps devant nous. Tous derrière, Stéphane Jourdain devant. Merci. À la semaine prochaine. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Céline Asselot. Il y a ensuite le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, la tendresse des nuls en sport.
Ah oui, j'ai Benjamin et ce cri du cœur. Je suis tellement content que vous abordiez ce sujet. Tant d'humiliation à être le dernier à être choisi pour les équipes de foot. Après la dernière fille, pour un garçon, ça reste. Alors il ajoute quand même, j'ai rencontré ma compagne sur le banc de touche en première au lycée après avoir vomi au bout de 12 minutes de course rapide. Fanny, j'ai toujours adoré nager ou faire du vélo quand j'étais gamine et je détestais faire du sport au collège, j'étais nul. Je n'ai jamais compris cette recherche de performance de la part des profs.
01 45 24 7000, les amis, c'est le même chemin pour vos pouces sur WhatsApp.